Hein, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22 de Marc, de l'évangile de Marc, chapitre 11. À Dieu soit toute la gloire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc il y avait une cacophonie, il y avait des gens qui faisaient aller va-et-vient. Hein? Il ne permettait que personne ne puisse faire va-et-vient. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. » Je reprends au verset 20. « Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. » Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi en Dieu. » Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. C'est merveilleux comme le Seigneur confirme les messages. Hein, j'avais un peu le cœur avec un petit doute. Je dis, est-ce que ce message va être accepté, est-ce qu'il va faire un impact dans les cœurs? Et quand j'ai entendu le frère, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je dis oui, c'est de la part de Dieu. Et je remercie le Seigneur. Vous savez, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre le figuier et ces vendeurs de pigeons dans le temple de Dieu? Ces deux exemples ont un point commun entre eux, celui de ne pas porter du fruit pour la gloire de Dieu. Ni le figuier n'avait de fruit, ni ses vendeurs qui étaient dans le temple du Seigneur. N'est-ce pas? Vaut mieux rester un jour dans les parvis du Seigneur que 1000 jours ailleurs. Pourquoi? Parce que la bénédiction est là. Où était la bénédiction quand ces vendeurs ne faisait que accroître ses biens, remplir ses poches. Cette image du figuier séché est la première action négative que Jésus a faite et qu'elle doit nous servir de leçon. Je regardais cet arbre, il est significatif. Je ne juge pas. Hein? Il est significatif, mais il ne portera jamais de fruits. Jamais. C'est quelque chose de mort. Puis j'ai remarqué un autre arbre là-bas, vous voyez? Il a été incendié, il a été brûlé. Il est mort tout seul. Il est vieux, il n'y a pas de fruits. Un jour ou l'autre, il va tomber. Oui, un jour ou l'autre, il n'a plus de fruits, il va tomber un jour ou l'autre. À quoi ça va servir? À être jeté dans le feu, n'est-ce pas? Dieu aime un cœur vivant, un cœur joyeux, un cœur plein d'espérance de pouvoir aller de l'avant. Cette histoire n'est pas une parabole, mais une action réelle de la condamnation de la part de Dieu pour tous ceux qui ne produisent pas de fruits. Le figuier et les marchands dans le temple. Vous savez, le figuier... au printemps, tout à fait au contraire des autres arbres, il ne met pas les feuilles d'abord. Le figuier, c'est la petite figue qui sort en premier lieu. Il y a le fruit qui sort, et puis ce sont les feuilles. n'est-ce pas? Cet épisode a pour une signification spécifique. D'ailleurs, comme toute la parole de Dieu, hein, la morale pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Jean le Baptiste, en Matthieu 3,10, il a dit ceci: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, je m'arrête. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il y a des arbres qui portent du mauvais fruit aussi. Ces arbres-là seront coupés, car ils n'apportent rien de bon, mais tout ce qui est négatif. Les marchands du verset 15 que nous avons lu ensemble, qui ont été chassés du temple, Jésus les voyait comme cet arbre qui a été maudit, à cause qu'il ne produisait pas de fruits, car il ne venait pas dans la maison du Père portant du fruit. Et avoir une rencontre réelle avec leur Dieu, mais pour un tout autre but. Ils étaient là non pas pour recevoir la bénédiction de Dieu, à travers qu'il le glorifiait, qu'il l'adorait, qu'il le bénissait, mais pour leurs propres intérêts. J'espère que personne ici n'est pesant pour ses propres intérêts. Non, pour plaire à quelqu'un, ou quelqu'un, ou à autre. Dire, ben, j'y vais parce que c'est le dimanche. Hein? Je vais à la messe, je vais passer quelques heures au lieu de rester à la maison. Je vais au culte. Non. Non, j'espère qu'on est là pour avoir une nouvelle rencontre avec son Dieu. Et chaque fois que nous sommes présents dans sa maison, non pas comme ces marchands, hein, que nous cherchons la présence de Dieu, nous ressortons avec la connaissance d'une nouvelle facette de ce qu'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. N'est-ce pas? Ils étaient là pour leurs intérêts et ils en extraient du bénéfice. Ce genre de personnes seront toujours rejetées par Dieu. Car on ne peut pas jouer avec Dieu. Hein? On ne peut pas se jouer de Dieu. Nous pouvons être là pour faire plaisir ou pour passer notre temps ou pour, apporter une critique vers quelqu'un, voir comment on s'habille, comment on se comporte. Hein? Un jour ou l'autre, il ne viendra plus cette personne. Non, car elle ne rentre pas dans la maison de Dieu pour glorifier le Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur n'aimait pas ces genres de personnes, mais ces personnes faisaient partie du peuple de Dieu. Ils étaient à la connaissance de la parole de Dieu. Ils savaient. Quand Jérémie l'avait été dit, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Et c'était une caverne de voleurs. Ils venaient dépouiller les personnes en vendant leurs marchandises beaucoup plus chères qu'ils ne valaient. Hein? Ésaïe dit ceci en Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, nous y compris, n'est-ce pas? Ces vendeurs avaient-ils considéré ce lieu comme la maison du Père? Pas du tout. Non. Ils n'étaient pas là pour avoir une rencontre avec Dieu, mais une rencontre avec les personnes. De ce figuier, j'en déduis ceci. Il a vécu en égoïste, en ne pensant que se procurer de son feuillage. Il était beau extérieurement, mais à l'intérieur, il n'avait aucun fruit. Il ne valait rien. Il n'a pas eu le temps d'y penser, cet arbre, qu'un jour Jésus serait venu lui demander compte. Hein? Il n'a pas pensé à son futur. Car si Jésus aurait trouvé du fruit en lui, cet arbre aurait continué à vivre dans le futur. Et la même chose pour les vendeurs, qui n'apportaient rien. Et nous voyons la fin de cet arbre. Et nous voyons aussi la fin de ces vendeurs dans le temple. La vanité de cet arbre, et son égocentrisme ont été sa perdition. Jésus, de cet arbre, en espérait trouver des fruits, mais tout ce qu'il en a reçu, c'est de l'indignation. Jésus savait de la stérilité de cet arbre, et malgré que ce n'était pas la saison des fruits, Jésus espérait. Jésus actuellement espère et cherche encore, car il était pris d'une faim spirituelle et ce désir le pousse à venir regarder s'il y a du fruit sur l'arbre que nous sommes, sur l'arbre de nos vies. Quand bien même ce n'est pas la saison, il veut trouver du fruit en tout temps. Il a dit lui-même dans Jean 15, 16, je vais le lire pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure et qu'il soit permanent, continuel. N'est-ce pas? Il veut nous trouver aussi, actuellement, non pas comme ces vendeurs dans le temple, mais comme l'Église primitive. Jésus s'attend de nous trouver épris d'enthousiasme, d'ardiesse, de lui être obéissant, nous réunissant comme l'Église des Actes 2, 42, que nous connaissons tous ce passage, mais je vais quand même le lire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et la crainte, non pas comme ces vendeurs, ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Et la crainte de chacun s'emparait d'eux. C'est merveilleux. Dans la présence de Dieu, nous avons la crainte de Dieu. Et quand nous disons d'adorer le Seigneur, c'est en toute crainte et respect devant sa glorieuse et divine présence. Là, c'est la vraie adoration en esprit et vérité de notre Dieu. Dieu veut nous trouver comme ses frères de l'Église naissante. Comme dans les premiers temps où nous avons connu Jésus rempli de premier amour pour lui. N'est-ce pas? Nous étions tout feu, tout flamme. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à évangéliser toute la famille. N'est-ce pas? Toutes les connaissances, les amis, tous ceux que je voyais autour de moi. Et j'ai même incité le responsable à l'époque d'aller sur les marchés. Il n'avait jamais été. Je dis non, il faut aller, il faut sortir. Quel feu que j'avais de cet amour vis-à-vis de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, il y a quelqu'un qui essaie d'éteindre ce feu. Ne le laissons pas agir dans nos vies. Le feu doit tout le temps rester vivant, ardent dans nos cœurs. Le feu de pouvoir satisfaire le désir de Dieu. Nous étions remplis de joie et de désir de le servir en travaillant pour notre futur et pour le futur de l'Église. On ne travaille pas pour nous, n'est-ce pas? Nous travaillons pour avoir l'assurance de la vie éternelle avec le Seigneur, le plus tard possible. Mais nous travaillons pour le futur de l'Église. C'est dans le présent que nous devons travailler pour le futur. Car pour nous vivre le présent, énormément de chrétiens ont travaillé dans le passé. Et c'est pour cela que le présent existe. Je disais tantôt à notre frère, quand il m'a présenté la doyenne de l'Église, je dis, si nous sommes là, c'est parce qu'elle a été là. Tout simplement. Tout simplement. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des frères qui ont eu compassion de notre âme, qu'ils ont prié et combien ils ont souffert afin que Dieu puisse recevoir ce fruit que nous sommes aujourd'hui dans cette Église, dans la communauté. Le futur appartient à ceux qui construisent pour le futur. Mais nous sommes appelés à le préparer aujourd'hui, au présent, tout en sachant que les jours meilleurs, nous dit Paul dans Philippiens 3, 13, 16, sont devant nous et nous devons nous réjouir. en construisant ensemble le futur de l'Église. Si nous restons oisifs, comme il a été dit, nos pieds devant la télévision, sur un fauteuil, il n'y a rien qui se fera. Mais si on se lève, si on se lève pour travailler pour notre futur, pour le futur de l'Église, Dieu nous récompensera. Car Dieu va se réjouir en voyant ses enfants, hein, le corps du Christ, dans l'église de Bois-de-Villers, hein, aller de l'avant, de se lever, hein, et aller contre même l'ennemi, car des barrières vont se lever. Mais celui qui est avec nous est plus fort de celui qui nous dresse des barrières. Les vendeurs ne se préoccupaient pas pour leur futur. Ils trafiquaient pour vivre le présent. Et voilà leur fin. Ils ont été chassés loin de la présence, loin de la maison de Dieu. L'impie, nous dit le psaume 1, ne peut rester dans l'assemblée des justes, que peut-être pour un temps, puis va se lasser. Et Dieu va intervenir. Jésus intervient tôt ou tard pour les chasser. Beaucoup d'entre nous, nous provenons du passé, mais nous devons nous relever au présent, car il ne faut pas vivre le passé. Il ne faut pas vivre le passé, mais nous ne devons pas l'oublier. Le passé a été très important. Hein? Et nous ne devons pas oublier non plus ceux qui ont travaillé pour le passé, pour notre passé. Nous devons le respecter, ainsi que tous ceux qui ont constitué le passé, car ils ont vécu des expériences merveilleuses et nous les ont transmises. Mais j'ajoute ceci, ils n'ont pas vécu que des expériences merveilleuses. Ils ont vécu des expériences aussi négatives, mais qu'ils ne nous les transmettent pas. Ils les tiennent pour eux. Car c'est encourager le peuple de Dieu qu'il faut faire. Et non pas le décourager. Seulement les mettre en garde, car Satan est toujours à l'œuvre. En Matthieu 21-28, dans ce passage, nous avons un exemple d'un jeune qui se préoccupe pour le futur de la famille en allant travailler à la vigne du Père. Est-ce que tu veux aller travailler dans la vigne? Non, papa. Mais puis, il réfléchit. Il dit, mais j'ai une famille à maintenir. J'ai une famille, j'ai une maison. Je dois travailler dans la vigne de mon Père pour la bénédiction de moi-même ainsi que de toute ma famille. Si maintenant notre Père Céleste nous demanderait d'aller prendre soin de sa vigne, que lui répondrions-nous? Ça, c'est une question que vous pouvez apporter la réponse dans votre cœur. C'est à nous de répondre à cette question très importante, n'est-ce pas? Le futur, nous devons le préparer ensemble, dans l'unité de l'esprit et dans l'amour fraternel, continuellement, d'une façon toujours vivante, sous la crainte de Dieu. L'Église que nous constituons, elle est comme un bateau à voile, dont l'équipage demeure à son poste. Et ce n'est qu'alors que le vent de l'Esprit de Dieu soufflera en pleine voile jusqu'à nous amener au bon port dans le futur. Sachons que Jésus est venu pour préparer notre futur, le futur de son Église. Et l'Église est appelée à préparer le futur d'autres âmes, tout en préparant le nôtre, c'est-à-dire nous préparer à rencontrer Jésus-Christ, car cela est notre espérance, n'est-ce pas? Et notre espérance doit nous émouvoir, hein, doit nous pousser à être actifs dans les voies du Seigneur. Et surtout, sa venue, l'attente de sa venue, car Jésus viendra. Et quand Jésus viendra, il va venir voir dans l'arbre que nous sommes, si nous avons du fruit ou bien pas. En Marc, chapitre 16, verset 15, nous connaissons tous, le Seigneur donne un ordre impératif à tous ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et en Romains, l'apôtre Paul nous dit ceci, en Romains 8, verset 19, la création attend avec hardiesse, hein, avec désir, la révélation des enfants de Dieu. Et si les enfants de Dieu ne se lèvent pas, la création, mes frères et mes sœurs, elle peut toujours attendre. Elle peut toujours attendre. Le fait a dit que dans le monde, hein, il y a encore des personnes qui ne sont pas à la connaissance de l'Évangile. Quand ils se viendront à la connaissance, alors Jésus viendra. Et c'est à nous de hâter la venue de Jésus-Christ. C'est à nous. Comment ? En préparant le futur. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous dit « Il y a un temps pour toutes choses. » Mais pour l'Église, elle sera toujours au temps présent pour préparer le futur. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire demain, on verra. Non. Seigneur, aujourd'hui je veux et je me lève pour toi. Et cela en le désirant ardemment dans notre cœur, en gardant notre cœur plus que toute autre chose, nous dit le Proverbe chapitre 4, verset 23. Car d'un cœur bien gardé jaillissent les sources de la vie, jaillissent les bons fruits pour la gloire de Dieu et pour l'édification commune. Et si nous les gardons bien, l'arbre de notre vie sera non seulement beau extérieurement, mais surtout il sera fructueux. Et le fruit sera permanent et nous resterons sous le regard de notre Père Céleste, qui s'attend de chacun de nous obéissance. Vous savez, un jour, je faisais quelque chose. C'était pas un péché. C'était pas que Dieu me l'interdisait. Et je faisais cela pendant quelques semaines. Et tout d'une fois, une voix me dit « Ne fais plus ça. » Je dis « Mais Seigneur, c'est pas péché. C'est pas péché. » Bon, quelques semaines après, le Seigneur me redit encore « Angelo, ne fais pas ça. » Je retournais tout cela dans ma tête, je disais, mais pourquoi ? Je ressens cela, Dieu me parle, et pourtant ce n'est pas péché. Par trois fois, le Seigneur m'a dit, arrête. Et par trois fois, j'ai insisté. Et j'ai commencé à ressentir quelque chose dans mon cœur. Une peur, une angoisse. Et je me posais la question, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? J'étais en prière, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ? Et j'avais cette angoisse en moi. Et elle était croissante, toujours de plus en plus, toujours de plus en plus. Jusqu'au moment où j'ai dit, mais oui, je dois arrêter de faire ça. Car je ne sais pas ce que j'ai, mais je sais que c'est de la part de Dieu. Du moment que j'ai prononcé ces mots, l'angoisse est terminée, est tombée de mon cœur. Mais après, j'ai compris quelque chose. Dieu voulait l'obéissance. Pas que j'arrête de faire ce que je faisais, mais il m'a éprouvé pour voir si je lui étais obéissant. Et vous savez, cette obéissance a porté du fruit. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. Moi, je suis aumônier à l'hôpital d'Aublet depuis 17-18 ans à peu près. Et je vais en psychiatrie. Toutes les semaines, j'y vais. Tous les jeudis matin, je suis là. Et quand quelqu'un me disait, je suis angoissé, je ne savais pas ce que c'était. Je ne les comprenais pas. Mais avec cette expérience que j'ai passée avec le Seigneur, j'étais obéissant. Dieu m'a fait comprendre ces choses. Maintenant, quand on me dit, j'ai de l'angoisse, je sais ce que c'est. Je comprends la personne qui est devant moi, qui me dit d'être angoissé. Avant, je ne le savais pas. Quand quelqu'un n'a jamais eu mal aux dents, hein, il ne peut pas croire l'autre qui souffre terriblement de mal de dents. Mais quand il l'a éprouvé soi-même, ah oui, je sais maintenant ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est que l'angoisse. N'est-ce pas ? Il y a des déprimés. Il y a des déprimés. Il y a des alcooliques. Il y a des drogués qui sont en psychiatrie à Aublet, à l'hôpital d'Aublet. Je les comprends et j'essaie d'apporter un soutien parce que j'ai passé par l'expérience, pas de la drogue, pas de l'alcool, mais de cette angoisse qu'ils ont. Tout simplement parce que j'ai été obéissant à la parole de Dieu. Et je pourrais vous raconter comme ça des témoignages pendant des heures, mais l'heure passe. Hein? Peut-être une autre fois, un autre témoignage. C'est merveilleux quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous manipule, on se laisse manipuler. Comme l'argile dans les mains du potier, il nous forme tout à sa gloire. Il nous fait être des vases à honneur, malgré que nous sommes des vases de terre, des vases à honneur où d'autres puissent venir boire à la gloire de Dieu. Forçons-nous de pouvoir présenter à Dieu à partir de ce jour du fruit agréable à notre Seigneur. Nous savons c'est quoi les fruits agréables à notre Dieu. Et nous devons les, comment dire, lui présenter tous les jours. Non pas seulement le dimanche matin ou le jour de la prière, non, tous les jours. Tous les jours. En me levant, dès que je mets mon pied gauche à terre, je dis, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Je me remets en toi, que veux-tu que je fasse? Guide-moi, remplis-moi de ton esprit et fortifie-moi. Guide mes pas, mes regards, ma bouche, ma langue, mes yeux et mes oreilles, car je veux t'honorer tous les jours. Je ne dis pas que tous les jours je porte du fruit à la gloire de Dieu. Il y a des jours que si Jésus viendrait, il ne trouverait rien. C'est tout à fait normal. Mais puis, en allant au pied du Seigneur, dit Seigneur, renouvelle-moi. 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 Et Dieu le fait. J'ai presque terminé mon message. Je pense qu'il a été bien compris. N'est-ce pas? Une nouvelle année, par grâce, se présente à nous. On a eu des bénédictions. 2013, nous avons apporté du fruit pour le Seigneur en 2013. Dieu nous accorde encore la grâce de vivre en 2014 et il s'attend de chacun de nous encore beaucoup plus de fruits. N'est-ce pas? Le Seigneur s'attend de chacun de ses disciples que nous lui fassions, nous ne faisons pas des sacrifices, mais de lui être soumis en obéissance. Et le plus beau cadeau qu'il désire recevoir, c'est le fruit que nous devons lui apporter à sa gloire. Honorons-nous donc pour l'année nouvelle qu'il nous accorde de vivre avec lui, pour lui et en lui. Je vais vous demander de nous lever et nous allons prier ensemble.